Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Merci d'écouter Un Bon Moment en podcast. Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que Navo soit en première partie. Donc venez nous voir sur unebonnesoirée.fr. Bisous, bonne écoute.
T'y vas là ?
Rendez-vous sur unebonnesoirée.fr !
Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans un bon moment spécial. Vous l'avez demandé, vous en aviez marre de Kian, maintenant c'est moi qui présente. Alors Kian,
comment ça va ?
Raconte-nous un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas.
Bah écoute, je suis un auteur, j'écris des blagues et c'est vrai que je fais du stand-up depuis quelques années et voilà, j'essaie de faire rire les gens.
Et ça,
c'est de les toucher en tout cas.
C'est tout à ton honneur.
Merci.
Bonjour Kian Kojandi.
Bonjour Augustin Trapenard.
Là, aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous faites un album.
Exactement.
Un album de musique.
Exactement.
Et c'est pour ça que vous êtes venu avec Clément Lib.
Clément Lib, ouais.
Bonjour.
Alors, qui est Clément ?
Alors, on voulait faire cette petite émission ensemble pour juste vous parler d'un projet qu'on sort qui s'appelle L'Horizon des événements. C'est mon premier album. Donc, c'est la dernière fois que je sors un premier album de toute ma vie. Et c'est avec Clément qu'on a, on a fait un projet. On a commencé ce projet il y a 3 ans. Et ça peut paraître un peu surprenant de sortir un album pour un humoriste, mais c'est un projet qui a beaucoup d'influence d'artistes que j'aime énormément des dernières années. Et ça fait longtemps que j'avais ça en moi. Les gens qui me suivent peut-être sont au courant, mais je viens avant tout de la musique et j'avais vraiment envie de sortir un projet musical depuis des années où je pouvais m'exprimer en chanson.
Mais du coup, c'est-à-dire que toi, tu te vois comme un humoriste qui fait de la musique ?
Je me vois comme un musicien qui a longtemps fait beaucoup d'humour.
Ok, parce que c'est surprenant, mais est-ce que ça te surprend toi-même du coup?
Non, ça ne me surprend pas, parce que j'ai toujours mis même la musique au centre de des œuvres, tu vois. Dès qu'on racontait des histoires, je mettais un point d'honneur à mettre de la musique et à mettre de l'émotion, justement, à mélanger. On peut rigoler pendant une minute, on a déjà eu ça dans Bref, par exemple. Une minute trente de gaulerie et les 30 dernières secondes, bam, on cueille les gens, tu vois. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon mode d'expression. Et je me suis dit, bah autant dans Bref, c'était une vraie expérience de texte où je parle et il y a de la musique. Autant là, vraiment, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va aller full musique et ça va me faire du bien.
Et t'as l'impression que c'est proche de Bref ?
Oui, c'est très proche de Bref. Qu'est-ce que t'en penses, Clément ? Clément, qui est le compositeur et le producteur de l'album.
Ben oui, c'est-à-dire que dans Bref, déjà, il y a une notion de rythme qui était très musicale. Je pense que c'est le rythme de Bref qui a révolutionné peut-être le format, qui a donné en tout cas cette singularité à cette manière de faire de la vidéo, de raconter des histoires. Et dans cet aspect-là, d'une écriture très rythmique, très imagée, effectivement, on est parti de ce format-là pour en essayer d'en faire de la musique, en tout cas. En tout cas, essayer peut-être aussi de créer un format musical qui n'avait pas encore été fait. Où à la fois on peut être proche, entre guillemets, du spoken word, mais avec un aspect rythmique plus proche du rap, parce qu'il y a plus de flow, parce qu'il y a plus de débit. Donc on est un petit peu entre ces deux mondes, dans la rythmicité, dans le rythme de Kian. Donc dans ce sens-là, effectivement, on est assez proche de Bref.
Toi, t'es full musicien.
On
peut dire ça comme ça, en termes de carrière, en tout cas.
Je ne suis pas du tout humoriste.
Pas du tout humoriste. Et alors, comment ça se passe, la rencontre où vous connaissez avant ?
Non. Enfin, moi, je le connais, évidemment.
On se rencontre... Il y a Big Flo et Oli qui m'invite sur une date, je crois que c'était dans l'Est de la France.
Donc toi, tu as bossé avec Flo et Oli, tu bosses encore avec eux ?
C'est le producteur principal des sons de Big Flo et Oli. Le compositeur, le chef d'orchestre un peu de la DA. C'est lui qui s'occupe vraiment, c'est un peu l'homme de l'ombre, hein, de leur musique.
Effectivement, ouais. Je suis pas tout seul, mais je travaille avec eux depuis l'album La Vraie Vie. Et du coup, les frérots ont une, une, une relation privilégiée avec Yann. Yann était venu à un concert, effectivement, je ne sais plus où, mais dans
c'était dans l'Est, c'était dans l'Est de la France. Il y avait des trucs avec les... C'était peut-être à Dijon, mais tu sais...
Les aveugles qui applaudissent. Non, c'est les sourds. Les sourds qui applaudissent.
Je crois que les aveugles, ils applaudissent pas comme ça. Ils applaudissent vraiment comme ça, les aveugles.
Ah ouais, c'est vrai, ils peuvent.
Ils s'entendent, pour le coup.
Ouais.
C'est les sourds, non, qui applaudissent.
Oui, je crois que c'est ça, ouais. Non, c'était... Ouais, c'était un concert dans l'Est, ouais. Et j'avais fait écouter un peu mon projet, mes idées à Big Flo. Il m'a dit, faut qu'on te présente Clément, on a un gars
donc
pour toi.
Donc, c'est Florian qui t'a dit...
Florian Oli, ouais, les deux.
Les deux qui t'ont dit, faut que t'ailles voir Clément.
On croit souvent des VIP, des gens du show business, dans les loges de Flo Oli. Tout dépend d'où on est en France, il y a toujours des gens qui gravitent. Et très souvent, ces gens-là, je les croise même pas, ou en général, je passe complètement inaperçu et il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure, mais parce que ces gens sont souvent dans des bulles aussi de protection. Et en fait, le dialogue s'est fait assez naturellement avec Yann. On se connaissait pas, puis on a discuté de plein de choses. Et puis,
t'es musicien classique, t'as un parcours de musicien classique. On a commencé à parler de parcours de nos musiciens parce qu'on a fait le conservatoire à très très haute dose.
Ben toi l'alto, moi le violon. Donc effectivement, on avait quelques
donc,
traumatismes.
Toi, tu savais que c'était pas du violon, contrairement à tous les gens qui croient que Kian a fait du violon.
Exactement.
Non, c'est de l'alto.
L'alto.
C'est un gros violon, quoi. Et du coup, voilà, on a vachement discuté de plein de trucs. Et puis il a fini par me faire écouter une première maquette d'un morceau et j'ai trouvé ça très singulier, très honnête, très sincère.
Tu tremblais un peu ou pas? Parce que du coup, là, c'est une validation.
Je n'ai jamais été... Pendant 2 ans, j'ai été totalement insécure sur ce projet, mais totalement.
Parce qu'il y a quelque chose de rassurant, non? Parce que Clément et la carrière qu'on lui connaît, ne serait-ce que juste avec déjà Flo et Oli.
Oui, bah, je leur dois beaucoup d'ailleurs.
Écoute et te disent...
Ouais, c'est un facteur confiance fou. Et d'ailleurs, la maquette, je l'avais enregistrée avec Guillaume Brière, qui a fait des morceaux avec L'Homme Pâle, avec Orelsan aussi.
Guillaume Deschouz.
Ouais, Guillaume Deschouz, ouais.
Paradis.
Voilà. Et en fait, c'était une nuit, j'étais à Reims, parce qu'il était de Reims, on tapait des bars, on allait manger au resto et tout. Puis il me dit, viens, je te montre mon studio. J'ai dit, écoute, viens, on fait un truc si tu veux. Et puis, ouais, carrément. Et j'avais écrit ce texte sur un bord de table, j'avais un texte, je dis, écoute, j'ai ça. Il me fait, vas-y, on fait ça, on l'enregistre. Et on a créé cette maquette, et c'est le premier morceau de l'album, c'est Agendas. C'est l'histoire d'un mec qui s'auto-quitte devant une meuf. Parce que la meuf ne lui donne pas d'argument, donc le gars s'auto-quitte et se barre. C'est assez rigolo, c'est assez drôle, mais c'est une sorte de dialogue seul, en fait. C'est ça qui me faisait marrer. Et c'est pas que drôle, en fait. C'est ça qui était intéressant.
C'est
cynique, quoi.
En fait, c'est assez cynique, et je pense qu'on a tous vécu un peu ce truc-là. Tu commences le morceau en disant « je sais exactement ce qui va se passer ». En fait, il y a ce moment où ça bascule, où tu sens que là, ça va. Et il y a tout le film qui se fait très rapidement dans ta tête. Et en fait, ce morceau, c'est ça, en fait. C'est tout ce qui va se passer après. Et ce moment un peu où c'est la chute dans le vide. Et puis,
Il est même plus malin que drôle, ce morceau. Quand tu dis drôle, pour moi, c'est l'axe qui est malin. C'est le mec qui commence à avoir été suffisamment largué pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Exactement.
Et puis finalement, la personne en face a même plus besoin de dire quoi que ce soit.
C'est ça.
Il sait ce qui va se passer dans l'ordre, quoi.
Quand à partir de 30 ans, tu t'es déjà fait larguer au moins 3-4 fois, tu connais le process. Tu t'es plus surpris de dire « putain, je suis malheureux ».
Ouais.
Tu vois, quand t'as 15 ans, tu comprends pas ce qui se passe. Là, on te coupe de l'amour, on te dit que c'est terminé. Ça, tu l'avais une fois, tu l'as plus.
Mais donc, t'es une nuit tu avec Guillaume, ce morceau, tu l'as déjà en tête? T'as déjà gribouillé un truc?
Non.
Tu le crées sur le moment avec Guillaume?
Exactement, c'était de l'écriture mécanique. Je l'avais posé sur le papier et c'était parti. Et
D'ailleurs, il est assez spoken word, celui-là.
Complètement. Et d'ailleurs, il y a plein de styles dans l'album. D'ailleurs, on peut l'écouter. On écoute Agendas.
Non, excuse-moi, c'est mon émission.
Pardon.
Donc, on écoute Agendas.
Pourquoi tu ne veux pas répondre? Mais réponds-moi, parle. Parce que plus tu te tais, plus je vais dire des conneries, c'est sûr. C'est marrant, j'ai l'impression de me quitter tout seul, là. J'ai l'impression de m'auto-quitter. Mais t'inquiète pas pour moi, hein, j'ai l'habitude, hein, j'ai 38 ans, hein, je suis plus un débutant en malheur. Hein. C'est pas la première fois que je me fais larguer. Hein. Enfin, c'est la première fois que je me largue moi-même, par contre. Ouais. Si j'avais 15 ans, je serais là, non, t'es la femme de ma vie, il n'y en aura plus aucune autre comme toi, mais t'inquiète, hein, c'est pas la première fois que je dis, t'es la femme de ma vie à une femme. Puis, je sais exactement ce qui va se passer.
Et Mais oui, il y a plein de styles. Il y a le style très envolé à la fauve, où vraiment c'est très scandé. Il y a de la rime. J'en prends beaucoup de choses au rap, mais j'en prends beaucoup de choses au spoken word. J'en prends beaucoup de choses à bref aussi. J'en prends beaucoup de choses à ma rythmique. Il y a des couplets parlés. Il y a des refrains chantés. Il y a des refrains parlés aussi. Il y a pas mal de choses en fait. C'est assez. On a testé des choses. Bien testé.
Qu'est-ce qui rend. C'est peut-être Clément qui le sait. Enfin, je me dis que c'est vous deux qui avez travaillé là-dessus avec les différentes personnes qui composent votre équipe. Qu'est-ce qui rend le tout cohérent? Parce que là, quand on parle, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens.
Ouais.
Comment tu crées une cohérence avec cette vision qu'un album, c'est quand même un objet et qu'il va falloir qu'on se dise, qu'on identifie un minimum, on se dit, OK, c'est le même album ou au moins c'est le même artiste?
La voix de Ken.
La voix suffit?
Ouais. Une signature vocale et textuelle aussi forte que celle de Ken suffit amplement, en fait. C'est ce qui fait que, du coup, on peut placer ce personnage dans des décors très différents.
Musicalement?
Musicalement. Mais la musique répond toujours au sens d'un texte. Donc, il y a des situations très différentes dans la narration de cet album-là. Donc, les décors évoluent avec la narration de l'album. Mais la voix de Ken, son talent d'interprète suffit à créer la cohérence. Après, on a eu toute une recherche quand même de pont entre les morceaux et d'une esthétique à certains moments qu'on a voulu, avec des gros guillemets, intemporels, avec l'utilisation de beaucoup d'instruments organiques, avec des vrais cordes, des vraies batteries, des pianos, des choses acoustiques qui sont pas forcément datées dans une époque. Donc il y a eu cette recherche là pour toute une partie de l'album, et puis après certains moments où on varie, où on crée parfois aussi des côtés un peu pastiches, où on met Ken dans une situation où il essaie de se prendre pour un rappeur, parce que ce serait le risque un peu de cet album là c'est,
ouais, c'est vrai.
Le morceau OK
où ouais. J'arrive, je fais attends, tu veux que ça kick, écoute ça.
Donc là, je fais une grosse prod rap de comme
kick.
Voilà.
Oui, c'est limite un sketch en fait, ce
c'est
morceau.
C'est un sketch, oui, c'est une virgule un peu marrante.
Et du coup, est-ce que au moment de faire la tracklist, au moment de réfléchir à l'album, t'as pas peur de mettre un truc marrant et donc de brouiller les pistes, comme ça peut arriver à pas mal de gens qui sont identifiés comme quelqu'un de marrant, de dire attends, non, si je fais ça, je vais le faire full sérieux, parce que si je commence à faire des blagues dedans, ça devient un album de blaguiste et plus. Un truc de musicien.
Ouais, l'album, la tracklist, je suis assez attaché au format de l'album parce que je trouve ça assez cool, parce que si tu regardes bien le tracklisting, l'enchaînement des chansons respecte totalement le principe du deuil. C'est-à-dire que les chansons sont écrites.
Les phases.
Les phases deuil. Du deuil, ouais. C'est-à-dire que t'as vraiment le choc.
Alors, mais de quel. Parce qu'il y a un.
Il
y a un propos sous-jacent dans l'album.
Voilà. Il y a un propos
qui s'appelle l'horizon des événements.
Voilà, c'est ça.
Et c'est le deuil en général ou c'est.
C'est le deuil de ma vie d'avant. C'est clairement le deuil de ma vie d'avant. J'ai eu plusieurs phases noires ces 10 dernières années qui se sont vachement enchaînées. Je les ai jamais digérées clairement. Ça peut être plusieurs ruptures, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être l'envie d'être quelqu'un, des fantasmes, des choses non réalisées. C'est toute une digestion en fait. Et ça s'est concentré dans une période où j'allais pas bien du tout. C'était il y a maintenant 2-3 ans. Et je suis parti en studio me soigner, clairement. J'ai sorti les textes. Clément m'a vu dans un état, j'étais dans un état de colère, de rage, mais sans. C'était pas du tout violent, c'était intérieur, c'était bouillant, quoi. Et j'ai sorti les trucs. Et donc, cette œuvre, c'est l'horizon des événements. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'entrée d'un trou noir ou la sortie d'un trou noir. C'est là où le trou noir, quand il absorbe, il absorbe le temps, il absorbe justement la lumière. Ouais. Et il y a un moment donné où il l'absorbe plus et où le temps, tu vois, quand le temps est dans le trou noir,
le trou
temps
est
passe
noir,
très 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 lentement.
Le trou est noir parce que la lumière est.
C'est ça.
Est engloutie jusqu'à un certain point.
Jusqu'à un certain point.
Qui est un horizon.
Qui s'appelle l'horizon des événements. Donc c'est soit un point d'entrée, soit un point de sortie. Mais je l'ai pris comme, je le prends comme un point d'entrée au début de l'album et je le prends comme un point de sortie à la fin de l'album. Et vraiment, c'est 10 chansons que j'ai faites pour aller mieux et. Et c'est encore mon process que j'ai eu dans Pulsion, c'est mon process qu'on a eu dans Bref, c'est-à-dire, c'est freudien, quoi, c'est psychanalytique, c'est-à-dire parler d'un truc qui t'a fait chier, et voilà, j'ai mis le concentré de frustration, de colère que j'avais, et j'en ai fait des objets artistiques.
Donc du coup, si on reprend la chronologie, toi, tu es à un concert de Big Flo, tu les accompagnes sur leur tournée, vous discutez, et là, il te fait écouter un truc. Toi, tu penses quoi quand tu écoutes la maquette?
Ben, comme je te disais, je pense que j'ai jamais entendu ça. Je pense que je suis touché par l'histoire parce que je pense que les choses qu'il a traversées, d'autres personnes l'ont traversées. Je sais pas, une histoire de rupture, ça, si c'est bien raconté, ça peut toucher n'importe qui. Donc je suis touché par ça et il me semble que je lui dis, écoute, le morceau est trop bien, si tu veux, j'aimerais essayer de faire des arrangements de cordes par-dessus. Donc, on commence comme ça, sur ce morceau-là. Et puis, petit à petit, on commence à travailler sur d'autres morceaux. Et puis, une collaboration artistique naît de cette manière. Alors, moi, je lui envoie des prods, il pose des textes dessus. Ou parfois, il m'envoie des textes et je fais des morceaux par-dessus. Au début, c'est un peu par échange de mails. Et puis,
on apprend à se connaître.
Petit à petit, il vient au studio et on fait les choses en temps réel. Et c'est là que ça devient... Ça devient intéressant parce que effectivement, il va au studio comme il va chez le psy et on descend très profond dans des choses. Effectivement, moi, cette approche freudienne de la création, c'est le nerf de ma démarche, en fait.
Ça, c'est la sincérité du propos qui t'a fait dire qu'il y avait quelque chose.
C'est la vérité du truc. C'est la vérité. C'est la vérité du propos, effectivement. J'ai senti tout de suite qu'il essayait pas de faire le chanteur. Il essayait pas de faire un album. Il essayait pas de faire quelque chose pour se prouver quelque chose à lui-même. Il fallait que ça sorte. Et en fait, ben moi, c'est une raison de vivre pour moi d'essayer d'aider les gens à aller au bout de leur démarche et même plus loin et à passer d'une idée sur un coin de table à un objet artistique complexe où en trois dimensions on peut regarder dans plein de sens et toujours découvrir de nouvelles choses. Et je sentais qu'ici il y avait pour moi un terrain d'exploration émotionnelle et artistique un peu inouï. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va y aller. Moi, il va creuser, je vais creuser aussi, on va creuser ensemble, on va voir où on va aller. Aucune idée de dans quelle direction. J'avais pas du tout. Je me suis dit juste, bon, il y a une ouverture artistique, on va le tenter. Et ça a été un chemin fascinant, quoi. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris des grosses sensations. Dans la gueule.
Ça fait quand même un moment que t'es là-dedans.
Ah ouais.
T'as quand même appris un truc. T'as appris
des
trucs.
Mais moi, à chaque projet, de toute façon, si c'est pas le cas, en général, c'est que le projet, c'est mauvais signe, j'aurais pas dû le faire. Si j'apprends pas un truc, c'est que c'est une erreur de casting, en fait.
Et c'est une sensation générale où tu saurais te dire ce que t'as appris. Contact de Kian. Ça peut être une sensation générale.
Alors c'est une sensation générale, mais je peux dire des choses précisément. Y a une phrase qu'il a dit plusieurs fois et qui est devenue un mantra. C'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pour la prise de choix. Souvent, en création en général, mais en musique aussi. Enfin, moi, je suis souvent confronté à ce truc-là d'être dans le doute. Et de pas réussir à enlever les choses parce qu'on se dit, bon, est-ce que j'ai du rescule? Est-ce que j'en ai plus? C'est normal, j'ai plus de magie, machin. Et en fait, il y a un truc très tôt, il dit, en début de processus, il y a un doute sur quelque chose, c'est qu'il faut pas le mettre. À la fin, on est pétri de doute, c'est normal. Mais sur la première intention, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et ce truc-là, ça m'aide tous les jours.
C'est-à-dire que s'il y a un doute, on vire.
Exactement.
Parce qu'on va plutôt se focaliser sur ce sur quoi il n'y a pas de doute.
Il faut, sur un premier jet, c'est ou c'est l'évidence ou c'est pas.
Si c'est pas oui, c'est que c'est non, quoi.
Voilà.
Dans le sens, tu ressens, quoi, tu sais là, quoi.
Et sur le consentement de ta muse, quoi.
Exactement.
Tu la forces pas.
Non.
Et en fait, plus on avance dans le process, moins on a de recul, plus on a de doute. Mais sauf que si on sait que les premières intentions qu'on a mises sur le papier,
tu sais qu'au départ,
sont des intentions
de doute.
Sans doute. Tu sais que de toute façon,
aujourd'hui, ça devient un doute un peu névrotique et de peur, mais pas le vrai doute que tu avais au départ. Quoi. Tu te rappelles que À l'origine, il n'y avait pas de doute, c'est ça. Ça qu'il fallait faire.
Et en fait, ça aide pour tout. Ça aide pour tout dans la vie, en fait. C'est pas que de la musique.
T'as eu 4 enfants depuis, d'ailleurs.
Oui, exactement. Sans aucun doute.
Et il y en a un au milieu que t'as pas fait. J'ai un doute.
Non, mais c'est réellement, ça, c'était une vraie leçon artistique, mais aussi humaine. Et après, ça a été des sessions d'enregistrement d'une intensité émotionnelle rare, conjuguée avec la précision des artistes qui ont, je vais pas te manquer de respect, 15 ans, 20 ans de métier. T'as combien d'années de métier ?
Oui, j'ai 15 ans de métier.
15 ans de métier. Ce moment où, en studio, quand on fait les maquettes, on reprend 3 fois la même phrase, machin. Et qu'entre-temps, le gars travaille ses textes, on arrive à Paris et on fait des one-shots sur des textes qui sont parfois très, très durs, émotionnellement et en termes de diction. Là, tu dis l'exigence, quoi. L'exigence de l'intention juste, de ce travail-là de l'acteur, en fait. Là où souvent les musiciens...
Oui, parce que là, tu as un musicien qui a une grande carrière d'acteur, qui est un bon acteur, alors que d'habitude, tu as un peu le contraire. C'est-à-dire que les intentions sont plus dures à trouver, j'imagine,
exactement,
pour un chanteur qui n'est pas comédien que pour un comédien qui n'est pas encore vraiment chanteur et qui se met à la chanson.
Exactement. Moi, souvent, je suis dans ce rôle de « Ok, alors tu chantes ce mot-là, alors c'est juste ce que tu me fais, mais est-ce que ton intention est juste ?» Là, j'avais rien à dire. J'étais juste comme ça. Et j'écoutais et je voyais ce qui se passait, quoi. C'était... Donc,
on a fait aussi sur le parti pris de cet album, c'est de faire une prise à chaque fois. C'est-à-dire que quand on fait un texte, le couplet, c'est une prise.
C'est-à-dire que tu ne droppes pas.
On ne fait pas d'édit. Édit, ça veut dire qu'on va prendre la première phrase et c'est la meilleure. Ensuite, on l'ajoute avec la deuxième. On a essayé de...
De créer une vérité.
Ouais, c'était les lives de Jacques Brel qui m'ont inspiré vachement. Parce que je suis pas Jacques Brel du tout, je n'ai pas son talent.
Non,
hein.
T'es meilleur.
Pas du tout. Mais je suis fan de Ne me quitte pas, où le gars, il est là, il y a un plan, il parle... Et
c'est quoi, Ne me quitte pas ? C'est une chanson de
Jacques
Brel.
C'est une chanson, ouais, de Jacques Brel.
Qui est, je parle de rupture aussi, c'est pas mal aussi.
Dans son album L'Horizon des événements, une fois, parce qu'il est belge, donc ça, c'est pas le même.
Non, mais c'est ce côté, genre, il faut atteindre ce côté donné. Je suis peut-être pas un grand chanteur, mais voilà, je sais que mon métier, c'est d'interpréter des textes. Ben, c'est les miens en plus. Donc vas-y, je vais essayer de faire. On a fait une prise à chaque fois. C'était chaque chanson est une prise.
Une seule, ou au moins on drop le deuxième couplet
Agenda, c'est une prise.
Ça va dépendre des morceaux.
En tout cas, il n'y a pas de ma première mesure, je la prends dans telle prise, et puis ma deuxième dans celle-là, ma troisième dans celle-là. On a une sincérité dans le couplet.
Ça peut arriver qu'il y ait une prise pour le premier couplet, une prise pour le second, voilà, par exemple. Mais
moi, je ne veux pas qu'on mente aux gens.
Non, mais les chemins sont assez limpides. C'est quand ça va de A à B. Voilà, c'est le point mais B, il est assez loin en général.
Mais en général, dans une thématique, c'est un plan-séquence. C'est l'idée d'avoir une vérité dans ce qui est raconté, une temporalité qui n'est pas manipulée, mais qui est... Et d'ailleurs, tu vois, dans la manière dont c'est enregistré et la manière dont c'est mixé, on n'a pas édité tous les bruits qu'on peut avoir dans une cabine de prise, tous les souffles de micro. On entend quand le micro se ferme et quand il se réouvre, on entend tous ces, entre guillemets, défauts qu'on gomme en musique, mais qu'on garde au cinéma. Donc, on a traité la voix comme si c'était du cinéma. Et la musique aussi derrière, en définitive, c'est un peu un film sans images.
C'est ça, oui, exactement. C'est un peu ça, ouais. On a essayé de filmer de la musique, quoi.
C'est beau ce que tu viens de dire. Je suis touché. Du coup, j'ai 71 questions.
Vas-y.
La première, c'est... là, ça va sortir. T'as déjà mis...
J'ai mis un titre, le premier, L'Horizon des événements.
Sur ta chaîne, sur... Les gens sont en train de regarder actuellement sur une chaîne où il y a déjà un titre.
C'est ça.
S'y remonte un peu dans le passé de la chaîne.
Des fois j'ai peur. Et c'est tout. Des fois je suis heureux aussi. Et c'est tout. J'avais rien demandé à personne, moi. Moi je suis le genre de gars, j'aime inviter mes amis à aller seul dans la pièce d'à côté. Ça me rassure comme l'enfant que j'étais. J'aime être seul, j'aime m'ennuyer, j'aime l'ennui. J'aime qu'on entende mon message, mais je veux pas savoir ce que tu penses de moi. C'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaufs, les gars avec leurs cigarettes Johnny, alors que j'ai réussi à replorer grâce à la mort de Johnny.
Là on va dire que l'œuvre en elle-même sort. Est-ce que tu te sens fragile? Puisqu'un des premiers points que t'as abordé tout de suite, j'ai rien dit, j'ai dit bonjour, t'as dit, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, un humoriste qui fait de la musique. Est-ce que tu te sens fragile dans le sens où on va avoir un bonus multiplicateur de la première personne qui aime pas, tu vas te focus sur cette personne? Ou
J'ai eu le temps de prendre confiance en moi.
Je parce qu'on parle de quelque chose où tu as mis de l'émotion, où tu as mis un truc, tu dis c'est quelque chose qui a besoin de sortir, c'est un deuil, etc. Il y a ce besoin artistique de le montrer aux autres, mais ça fragilise énormément. C'est pas pareil que de dire une blague. Tu dis une blague, les gens rigolent pas, tu peux te dire bon, lui il a rigolé, lui il a pas rigolé, ça va. Mais là tu dis voici mon cœur, il est comme ça. Et après, on est quand même sur Internet, il y a peut-être des gens, ils vont vouloir faire caca dedans.
Clairement, mais ma femme m'a dit un truc qui m'a vachement rassuré. Elle m'a dit, Kian, quand tu fais pulsion...
Elle t'a appelé par ton prénom, quand même ?
Ouais. Elle m'a dit, écoute, mon coco, elle m'a dit, quand tu fais un truc que t'aimes, que tu connais, quand t'es dans la comédie à 200%, que tu fais pulsion, que c'est maîtrisé, que t'as 3 ans de tournée derrière et que tu livres un spectacle qui est ficelé, mais tu peux pas plus... Il y a forcément des gens qui aiment pas. Et même quand t'es là, tu prends le risque qu'il y ait des gens qui aiment pas. Ben je me dis, elle me dit, si tu fais autre chose, il y aura aussi des gens qui aiment pas. Donc, dans tous les cas, il y aura des gens qui aiment pas. Et ça m'a rassuré en me disant, bah oui, de toute façon, et c'est un truc que tu définis, c'est toute œuvre est proposition. Voilà, j'ai proposé ça. Et ça m'a détendu. Et il y a un truc aussi, c'est que pendant que j'écrivais l'album, j'étais dans une phase de deuil de ma vie d'avant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai réglé vraiment tellement de choses grâce à ces chansons, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je peux...
Parce que tu dis, je fais un album sur la rupture.
Ouais.
Ma femme m'a dit.
Non, c'est pas un album sur la rupture, ouais, c'est un album sur le deuil. Ouais,
un
sur
album dans lequel tu parles de rupture.
Ouais.
Agenda, c'est une chanson
c'est
sur,
ça, ouais.
sur une rupture.
Bah oui, mais depuis...
Depuis, ta femme te dit, t'inquiète pas, ton album sur la rupture et sur le deuil,
c'est vrai que
etc.
C'est un peu étrange.
Donc on est dans une phase, vu que ça fait quoi, 2-3 ans maintenant
ouais.
Est-ce que cette...
Cette dichotomie ?
Ouais. Est-ce que c'est bizarre de sortir maintenant des chansons qui parlent d'avant, donc d'un état dans lequel t'es plus ?
Bah, c'est la preuve, je suis la preuve vivante que je peux aller mieux. Enfin, de moi. Ça a été 10 chansons pour aller mieux.
Est-ce qu'au final, c'est pas plus simple de le sortir maintenant ? Justement parce que tu as une certaine distance que t'as pas forcément avant.
Quand je l'écoute, parce qu'il a fallu finaliser l'album, réécouter les chansons, je suis moins connecté, je suis même quasiment plus connecté émotionnellement au truc. Quoi. Je fais, ah, c'est comme quand on regarde un épisode de Bref, on se dit, ah, c'est ce personnage. Et mais en fait, je me dis, ah, c'est un personnage d'avant qui est basé sur des ressentis personnels, mais ça va mieux. Et quand j'étais dans la composition de l'album, j'étais beaucoup plus fragile à me dire, ouais, mais attends, je vais m'excuser parce que je suis un comique, je dois pas faire de machin. Et maintenant, vu que c'est derrière et que j'ai, entre-temps, je sais pas, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, j'ai vécu une vie...
Avec ta femme.
Ouais. Et je suis heureux, je me rends compte de l'impact que ça a eu sur moi. Je me dis, putain, j'ai vraiment tourné la page à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Je traite des relations qui m'ont été toxiques à pas mal d'endroits, que ce soit en amour, que ce soit même dans la vie amicale ou dans la vie professionnelle. C'est des choses qui m'ont été... J'essaie de traiter ça, de la relation toxique dans l'album. Je traite de la solitude, de la perte d'un être cher, des choses qui sont un peu graves. Je te déteste, c'est un morceau qui est un peu plus loufoque, tu vois, mais ça parle de la colère dans le deuil, tu vois. En fait, tout est lié au deuil. J'ai fait ce deuil d'une vie d'avant et l'album se termine sur Rentrer chez moi. Et j'ai l'impression d'être rentré chez moi aujourd'hui. Je vis ma vie et je suis en train de créer une nouvelle vie. Chose qui était impossible pendant les 20 dernières années. Maintenant, je me suis engagé, tu me connais. J'ai tellement peur de l'engagement que c'est impossible. Et je me suis engagé avec quelqu'un. Je suis une nouvelle personne, quoi.
Et tu penses que l'œuvre en elle-même, la démarche d'avoir fait cette œuvre, elle a joué là-dedans ?
Complètement.
Tu le ressens vraiment ? Est-ce que les morceaux sont des photos de comment tu étais à l'époque ?
Ouais.
Ou est-ce que c'est réellement une forme de thérapie et d'exutoire qui t'a permis là de dire ma femme m'a dit.
Ouais, je pense que sans ça, sans avoir exploré
il arrivait le matin en studio, parfois dans des états pas possibles.
La drogue.
Il me parlait de fatigue.
J'étais à bout de nuit de Toulouse.
Il me parlait d'un truc. Il me parlait d'une idée générale. Je commençais à faire de la musique et là il dormait. Mais genre 3-4 heures.
Ouais, je dormais. Mais j'ai dormi.
Sur le canapé. Il faisait des cures de sommeil. Il se réveillait. Puis moi, j'avais travaillé 3-4 heures sur un truc. Il trouvait ça hyper beau. Et commençait à écrire. Et il posait le texte le soir. Et ça faisait une maquette. Et le lendemain, on faisait quelque chose d'autre.
On a fait une chanson quasiment par jour, comme ça.
Et, euh, Et en fait, on a eu genre 3 ou 4 sessions comme ça. Et à chaque fois, c'était une nouvelle thématique. Et on a fini, on a commencé l'album par le premier titre quelque part, et on a terminé l'album par le dernier titre, quoi. Et en fait, tout ce cheminement dont il parle du deuil, on l'a vécu, je l'ai vécu à côté de lui en studio, dans ses photos, effectivement, ces sortes de polaroïdes d'instant de
vie. J'avais des plages horaires de deuil. J'avais mis sur mon agenda, là,
faire
on
deuil.
Va à Toulouse, on va faire le deuil. Et en fait, c'est une méthode qui a marché pour moi.
Tu penses que ça jouait, vu que toi, t'es pas toulousain, de te déplacer géographiquement, d'être ailleurs,
oui,
enfermé dans un studio,
exactement,
dans une autre ville.
T'as rien à faire, ouais, t'as plus rien à
t'as
faire.
T'as que ça à faire de faire ton deuil.
Ouais. Et puis Toulouse, enfin, les Toulousains sont des gens... Je me sentais bien à Toulouse. Les gens me connaissent bien à Toulouse, mais il y a une vibes, il y a un truc, il fait beau, tu sors du studio, il fait beau. Je me suis senti accepté, je me suis senti chez moi, je me sens vraiment chez moi là-bas, donc j'ai bien fait parce que j'ai laissé aucune miette, en fait. Et aujourd'hui, je vois ça comme une œuvre de fiction. Je regarde ça, je fais « Ah oui, c'est un gars à qui il arrive ça, et je le dissocie, tu vois. Ce n'est plus moi, ça y est. »
Et le côté dissocié, tu penses que ça peut nuire au discours que tu as sur le truc, ou le recul te sert? C'est-à-dire que le fait de dire « Putain, ce truc que je suis en train de vous montrer maintenant, en fait, vous êtes il y a 2 ans dans ma vie, moi ça va, mais je vous montre moi qui ne vais pas. »
Oui, alors parce que moi, j'ai été cette personne, et aujourd'hui je vais mieux, donc tant mieux. C'est peut-être un message même d'espoir de dire... J'ai, à un moment donné, j'ai eu ces colères, j'ai eu ces rages, j'ai vécu ces frustrations, j'ai vécu des ruptures horribles. Et je me dis, aujourd'hui, ça va.
Donc, c'était important d'avoir cette sortie. Ça me fait penser un peu aux Jours Heureux de Ben Mazuet,
ouais.
Qui a tout un album plutôt orienté autour de la rupture et qui termine par Les Jours Heureux. Est-ce que... Les Jours Heureux qui reviennent. Hein.
Mm-hmm.
Est-ce que c'était pour ça que c'était important de dire, on plonge ensemble, mais... En fait,
mais on ressort ensemble.
T'as l'impression que du coup, tu vas parler à des gens qui sont en train de vivre ce que t'as vécu.
Ah, je sais pas.
En leur disant, il y a une lumière au bout du tunnel.
Je pense qu'au moment où tu le fais, t'es pas du tout en train de penser aux gens à qui tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses.
Ouais, je suis pas en marketing du tout à ce moment-là. Je suis en mode.
C'est pas forcément marketing. Hein. Tu sais, moi, le marketing, je lui chie dessus. C'était sur la démarche artistique. Pour moi, tu fais une proposition, tu sais que ça va être écouté. Donc, sur le moment, t'es pas en train de... C'est quoi? C'est au moment du... Le morceau, quand tu dis le morceau « Rentrer chez moi », qui est plutôt positif et qui est genre la fin du deuil, c'est un choix... comment dire? Ça s'impose à toi de dire, en fait, je fais un album qui va plutôt deep, mais en fait, ça y est, j'ai réglé des trucs, donc je fais ce morceau. Ou c'est un peu comme de dire « Ne vous suicidez pas !» Parce que tu dis « Attends, merde, il y a peut-être des gens qui sont dedans. » Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même... de dire « Attends, je m'adresse à quelqu'un quand même, je vais lui dire tout va bien aller après. »
L'orchestration de l'album, de toute façon, elle est très optimiste. Au final, elle est hyper optimiste.
Mais du coup,
est composée d'éléments négatifs.
Je reviens sur la question des morceaux rigolos, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mm-hmm. Il y en a avoir 4.
Il y en a 1, 2... Là, on en a laissé...
Un tiers
on en a laissé... Non. On en a laissé...
Sur 10, 3, ça fait un tiers.
À peu près 3, ouais.
Ouais. Mais t'en parles jamais. Là, depuis le début...
Je te déteste la colère, mais c'est de la colère drôle.
Mais non, bien sûr, mais je veux dire.
Pour moi, Agendas, je le trouve assez cynique. Je le trouve assez. C'est du stand-up cynique. Quoi.
Quand on en parle, j'ai l'impression que ton album, c'est un album de deuil, etc., mais qui est entrecoupé de.
Oui.
Et c'est quoi? C'est
mais
la politesse.
Parce que dans
c'est
le deuil, parce qu'on peut rigoler à un enterrement aussi. Hein. C'est pas.
C'est la politesse que je te connais.
De non,
dire,
même
je vais,
pas.
Je vais pas aller chialer tout
non.
le long. Je vais quand même faire une blague pendant que je suis pas
ouais,
bien.
Ouais, non, c'est pas ça. Non, c'est. Enfin, tu me connais.
Ouais, justement.
Je suis comme ça, quoi. Tu sais, on était au chevet de mon père.
Donc, c'est la politesse au sens noble du terme.
Oui, c'est ça. C'est de la
politesse du désespoir de dire, bon, je suis désespéré, je vais quand même te faire une petite vanne, parce que je vais pas non plus t'écraser dans le.
Ouais, puis artistiquement, c'est bien d'avoir les deux émotions, même de dire, tu vois, Pulsion, c'était drôle amer, et ça restait très drôle. Et puis, en fait, le côté aussi, c'est bien de faire rire après avoir établi une. Je trouve que le mélange deep drôle, donne une émotion de survie derrière. C'est intéressant, ça fait un rire de relâchement plutôt qu'un rire de divertissement.
Ouais. Ok, donc c'est ça, c'est un peu la politesse du désespoir.
Ouais. J'ai toujours été comme ça, en fait, tu me connais. Hein.
Du coup, est-ce que cet album, c'est le début? Parce que tu dis, c'est la dernière fois que
j'avais
sors un premier album.
Je sais pas si tu te rappelles, j'avais écrit « J'ai perdu mon père, ça a été une des pires choses de ma vie, j'espère que c'est la dernière fois que ça m'arrive. »
Ouais.
Tu vois, c'est le dernier, la dernière, c'est un morceau qui est méga deep, c'est... c'est clairement inspiré. Je l'avais écrite au chevet de mon père il y a maintenant plusieurs années. Et
c'était déjà de la musique ou c'était juste un texte à l'époque?
C'était déjà un texte de musique. Mais c'était
tu
pas...
savais que ce serait musical?
En tout cas, j'avais ces envies, ouais. Je le mettais de côté et c'était justement de me dire bah, on va faire tous les derniers trucs que tu fais dans la vie. Et depuis que t'es enfant, tu enchaînes de faire des derniers trucs.
Sans savoir que c'est la dernière fois que tu le fais.
Quoi. Parce qu'on parle des premières fois, mais il y a aussi la dernière fois que tu fais un truc dans la vie. Ça s'appelle le dernier, la dernière, jusqu'à l'issue auquel on est tous destinés, c'est-à-dire aller en boîte de nuit.
Non, la mort.
Ah oui, la mort.
Tu parles de la mort. Tu confonds à chaque fois ce que tu détestes, aller en boîte de nuit.
Non, mais on est tous... voilà. Et je trouvais ça l'axe de passer... J'adore la vie qui passe. J'avais fait un morceau avec Koldolaf où on parlait des marques que tu consommes toute ta vie, de Blédina jusqu'à La Poste. Ou Pompe Funèbre. Et c'est toutes les marques qui t'habitent dans la vie. C'est un mec qui s'appelait Marc, on trouvait ça marrant, la vie de Marc. Et j'adore la vie qui passe. C'est quelque chose qui m'a souvent marqué.
Et du coup, cet album, parce que tu as commencé en disant que c'est la dernière fois que tu fais un premier album,
ouais.
Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Pour toi, c'est le début d'un enchaînement possible d'œuvres musicales,
ouais.
Ou c'est un projet side project, tu reviendras pas forcément à la musique et on verra bien.
Il y a eu quelques idées récemment.
Il est en train d'apprendre que ce sera avec lui. C'est putain génial, je suis sur le deuxième.
Non, mais j'ai aucune. Encore une fois.
Parce que là, quand tu dis maintenant je vais bien, je vois cet album, c'est comme on va dire un album photo d'avant moi, de moi avant. Est-ce qu'il y a une envie de parler de toi maintenant?
Oui, bien sûr. J'ai toujours une envie de parler de choses que je vis, que je trouve intenses.
Mais musicalement.
Ah oui.
Est-ce que tu avais besoin que ce soit musical parce que c'était un deuil?
Ou non.
Est-ce que aller bien, ça peut faire des morceaux?
Non, mais je pense que si j'avais... après, je suis plutôt... Je suis vachement aspiré par les gens que je rencontre et les rencontres que je fais, tu vois. Ça m'a fait du bien de rencontrer Clément, qui mette son talent à... tu vois, au service de son investissement émotionnel, tout ça. Enfin, j'ai une chance énorme. J'ai beaucoup appris. Il disait que, ouais, il avait appris, mais moi, j'ai vachement appris. C'est un mec, enfin, t'as 25 ans? 26 ans? 25. T'avais 25 ans au début quand ça a commencé. Non, mais t'avais 25 ans quand ça a commencé, quand on s'est rencontrés. J'ai tout à apprendre d'un mec comme lui, quoi. Son humilité, son. J'aime parce qu'il a ce style de dire quand c'est bien, il dit c'est pas mal. C'est pas mal, c'est genre, c'est top. Quand il dit il faut la refaire, en fait, il est un peu
c'est
comme
que
toi.
C'est catastrophique, du coup. S'il dit c'est pas ouf, c'est que non. C'est la merde.
Mais non, mais c'est j'ai... En fait, quand t'es en studio avec des artistes qui sont des éponges à émotions, et Kian en est un exemple frappant, c'est que l'artiste, il fait les montagnes, il passe par des montagnes russes en termes d'émotions et de ressentis. Les émotions positives peuvent être extrêmement positives et complètement faussées par rapport à la réalité de la chose. Et inversement, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'artiste peut se sentir comme la pire des merdes, en tout cas, ça va un petit peu dans tous les sens. Et c'est un truc qui est habituel pour tout le monde, surtout quand t'es en studio devant un micro où t'es un peu à poil. Et où en plus, tu fais tout le temps cette espèce de... Non.
Bah, tout le temps, bah, dis pas ça non plus, tout le temps.
Il fait chaud à Toulouse, mais...
Il fait un peu chaud dans le studio, il y a beaucoup de lampes.
En plus, tu dormais juste avant, t'avais le barreau. Putain, c'est...
On avait créé une certaine intimité. Mais le truc aussi du studio, il y a peut-être aussi ce truc-là au cinéma, mais c'est que tu passes en permanence entre le rôle d'acteur et le rôle de spectateur. C'est-à-dire que tu passes de l'autre côté du miroir en permanence, parce que tu peux te réécouter et tu dois quelque part juger quelque chose où tu as eu un investissement en tant qu'interprète. Et ça peut être très compliqué à gérer. Ce que je veux dire par là, c'est que je sens que souvent, c'est
tu peux voir le mec faire un truc super et être dans une émotion négative et te dire c'est horrible, efface-le, je ne veux plus jamais le revoir.
Ouais.
Et inversement, il est un peu euphorique, il fait un truc, ce n'est pas parfait, mais tu vois dans sa tête, c'est...
Et moi, mon rôle, c'est de réussir à être d'être alors que dans ma tête c'est pareil, hein, ça part dans tous les sens parce que je suis un peu aussi un artiste, mais mon rôle c'est d'être une sorte d'encre sur lequel l'artiste peut s'accrocher, donc il peut passer par ses différentes émotions, mais s'il est trop euphorique, moi je vais le calmer, et s'il est trop négatif, je vais lui donner du positif pour essayer de trouver une sorte de recul et de balance où on se dit OK, il y a une forme d'objectivité, est-ce qu'on remplit Est-ce qu'on remplit le, entre guillemets, le cahier des charges artistiques de on a une forme de justesse et tout ça, on n'est pas dans le trop. On est... Donc, c'est pour ça aussi que j'ai ce tempérament en studio et dans mon travail où j'essaie d'être un peu poker face et d'aider les gens à trouver une balance juste.
Oui, mais ça se passe comment ? Parce que toi-même, t'es artiste là-dedans, t'es aussi impliqué, t'es aussi en train de mettre quelque chose de toi.
C'est quoi, tout son talent. Hein.
C'est en te rappelant que l'apport émotionnel de départ n'est pas le tien, que t'arrives à te recentrer plus vite que l'artiste avec qui tu travailles. Parce que moi, je me dis, mais toi aussi, là, quand tu racontes, si on se met du point de vue, si je suis ton pote et que lui, je le connais pas, moi, ce que je vois, c'est toi qui es en studio, il y a un mec qui dort, tu fais un truc, il se réveille et tu dis... Alors, t'aimes bien ? T'es aussi en fragilité.
Ouais, mais complètement. Sauf que moi, mon territoire, c'est pas les mots. J'ai
musicalement, t'es en fragilité. Ouais, si le mec est en train de dormir,
il te dit,
waouh, on va parler de mon père, il est mort, ok ? Toi, t'es là, bah vas-y, alors, je fais de la musique. Quand il se réveille, t'as quand même une pression artistique.
Je suis complètement fragile et une éponge à émotions aussi. Et je passe aussi par ces montagnes russes, mais je ne l'exprime pas verbalement. Mais c'est possible. C'est possible. Je vais rentrer deep 3 secondes sur les trucs très perso, mais en gros, moi, j'ai eu des problèmes de langage quand j'étais gamin, et j'ai aussi, quand j'étais ado, une sorte de secret familial que je ne pouvais pas exprimer, sinon ma famille s'effondrait, en gros. Et donc, la musique a toujours été ma langue maternelle. J'ai joué du piano avant de parler. Et en gros, quand on parlait tout à l'heure du truc freudien, je m'exprime plus dans la vie, plus facilement avec des sons musicaux qu'en parlant. Et j'ai extériorisé beaucoup, beaucoup de trucs dans ma vie par la musique plus qu'en parlant. Donc, ce que je veux dire, c'est que structurellement, dans ma manière d'être en tant qu'être humain, je sais ne pas verbaliser les choses et les exprimer autrement, avec notre langage peut-être plus mystérieux et moins plus dans le sensible que dans le verbal. Et c'est pour ça que j'ai une facilité, pas tout à fait naturelle, mais une facilité à ne pas forcément verbaliser les choses, à garder une sorte de recul comme ça, qui n'est qu'une façade, et à transformer toutes ces choses-là en musique quand j'en ai besoin, et parfois j'en ai besoin. Et d'ailleurs, tu te souviens d'une prise de studio qui m'a ravagé complètement. Et je me souviens, tu me dis un truc genre, tu vas en parler, j'ai pas dit un mot, je suis allé au piano directement.
Il a joué comme ça, mais mécaniquement, il jouait comme ça. Ça va, Clément ?
Faut que ça sorte.
Il jouait des mélodies, fallait que ça sorte, il jouait de manière totalement frénétique, c'était fou.
Et je les entends se marrer à côté de moi, je comprends pas pourquoi.
Un éclat de rire, dans le sens où on voit le...
Et moi, je suis dans une espèce de truc.
Refoulement total de ce qui vient de se passer. Et moi, je suis totalement nerveux, parce que je suis aussi...
Mais parce que c'était passé quoi ? On est à quel moment ? C'est quoi l'anecdote ? C'est là où vous êtes regardé avec un air bien complice, et moi je me suis senti bien isolé.
Ah non, c'est pas complice. Oh, c'est juste
depuis le début de l'émission, vous parlez tous les deux, c'est pas en private joke, donc ça va.
Pas du tout.
D'ailleurs, Choufliflat ou Choufliflette ?
Arrête, non, pas devant lui.
Oh. Non, le
qu'est-ce qui s'est passé ? On parle d'un moment, on a le droit de dire ce que c'était ce moment. C'est une prise de voix
dans les dernières prises de voix.
C'est une prise électrique, j'ai mis mes doigts.
Oui, tu l'as exploité. Non, mais on est.
C'est une prise de voix de Kian.
Ouais. Sors, je suis pas bien. Personne n'est bien dans le studio parce que c'est deep. Et moi, le réflexe que j'ai, c'est d'éclater de rire, de stress. Olivier, qui mixe avec nous, éclate de rire, mais il est un peu mitigé, il est en chaud-froid total.
Lui, son truc, c'est les milkshake, donc il part vite faire un milkshake. Il s'exprime par le milkshake, lui, il est là, putain.
Il met de la framboise, il met de l'amande, de la banane.
Les gens qui le connaissent bien, qui font, putain, il a mis des framboises.
C'est délicieux, c'est vraiment délicieux.
Il est pas bien, il est vraiment pas comme des framboises.
On a ouvert un magasin, le milkshake, après les gens, enfin, ça a pignon sur rue maintenant, dans le 17e, c'est fou. Et parce qu'on est dans le 17e à ce moment-là, et à un moment donné, Clément se lève, mais vraiment mécaniquement. Il va comme s'il allait vomir un truc au piano, quoi. Et vraiment, il a joué, quoi. C'était fou. C'était un moment, mais hors du temps. Et c'est ça aussi de faire une prise.
Ah, c'était hors du temps, ça.
C'était dans, il y avait quand même une temporalité parce qu'on était sur Terre. Mais hors du temps, dans l'horizon des événements, c'est-à-dire qu'on était dans le trou noir, là. On est clairement dans le trou noir. Mais ça, c'est des moments où tu te dis, waouh, c'était nerveusement chelou. Enfin, c'était bizarre. On a expérimenté des choses assez intenses. Et je suis convaincu que c'est pour ça que ça va mieux.
Ah, que le fait même d'avoir juste sorti ça dans le studio, c'est déjà en soi quelque chose de salvateur.
C'est comme un psy. En fait, ce qu'on va dire, c'est comme un psy. Le psy, il a un cabinet, tu vas chez lui, tu lui dis des trucs que tu vois, t'as honte, t'aimes pas, t'as des trucs que t'as pas envie d'avouer à toi-même, mais à quelqu'un. Et tu sors de là, ça m'est déjà arrivé de sortir de chez le psy avec les larmes aux yeux, mais d'être aussi sacrément relâché, quoi. Donc,
J'arrive, je connais pas. Vraiment, je te connais même pas, toi. J'ai pas vu Bref.
Ouais.
Je sais pas qui est Kian Kojanski. Et on me dit, il y a l'horizon des événements.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quel morceau j'écoute rentrer dans l'album?
Je te demande dans quel état t'es? Dans quel état t'es à ce moment-là?
C'est-à-dire?
Dans quel état tu es? Parce qu'il y a plusieurs états.
J'arrive, tu me dis, voilà, je fais de la chanson, je dis, t'es qui?
Ouais, bah écoute ça.
T'appuies play, tu mets quoi?
Ouais, je mettrais... je ferais le même move que je fais en stand-up, c'est-à-dire que je commence toujours par montrer que c'est cool.
En stand-up paddle ou en stand-up comédie?
En stand-up paddle. Okay. C'est-à-dire que vraiment, je choisis toujours un endroit flat en Méditerranée. Et là, à ce moment-là, je peux me dire...
Tu fais ce move-là, quoi.
Voilà, je fais le petit move cool.
Super.
Et dès que je conserve de la vitesse, hop, je profite. Un petit selfie pour les réseaux sociaux et après, j'avance. Pour le stand-up comédie... Il y a un truc qu'on dit, c'est que même quand tu testes quelque chose de nouveau, t'as une proposition nouvelle à faire, arrive toujours avec un peu d'empathie et de sympathie, un peu drôle, hein, soit drôle dès le début un petit peu, et après tu peux ouvrir pour que les gens aient confiance et se dire ok, on lui fait confiance dans son propos. Voilà, pour toujours garder la confiance. Et moi, je gagne la confiance des gens avec l'humour, donc je dirais bah écoute, je te déteste. Voilà, c'est un morceau qui est plutôt simple d'accès, plutôt gaulerie. Une femme parfaite, c'est plutôt simple, c'est plutôt gaulerie. Et si tu veux commencer à aller dans le un peu plus deep, bah écoute le premier morceau, l'horizon des événements. Tu vas comprendre mon propos, tu vas comprendre que je suis sérieux dans ce propos. Et puis il y a Agendas, et puis il y a Soleil Nuit, et puis après tu vas aller dans le dernier, la dernière, où on va vraiment la toucher le fond ensemble. Et la sortie des classes, qui est un peu plus léger, qui est un morceau un peu plus léger. Il y a OK, alors qui est une grosse farce.
Et écouter tout l'album, quoi.
Ouais, non, mais je te fais dans l'ordre.
Mais en shuffle.
Je te le fais dans l'ordre, en shuffle.
Parce que là, on est d'accord que c'est pas la tracklist que tu nous fais.
Non.
Et pourquoi, du coup, la tracklist, c'est pas l'ordre que tu es en train de donner là?
La tracklist, c'est le deuil. C'est l'envie, le constat d'un besoin de changement, le flashback sur le choc, le choc, le déni, la colère.
Mais pour le plaisir du concept? Parce que si je connais rien et que l'ordre dans lequel tu veux me le faire écouter, c'est celui-là, pourquoi c'est pas le tracklist final, le tracklisting final?
Parce que c'est pas un objet marketing, c'est un objet artistique.
C'est une expérience. C'est un vaisseau. On rentre dans le vaisseau et voilà, on quitte la Terre et après on va dans le trou et on ressort du trou.
Et toi, tu commencerais par « Je te déteste » ou « Une femme parfaite » ?
Non, pas du tout. Non.
Pour faire découvrir le projet ?
Ah, pour faire découvrir le projet ?
Oui, parce que quelqu'un qui connaît
rien,
absolument rien.
J'y connais rien, je sais pas qui vous êtes. Quel morceau tu me fais écouter ?
Moi, je commencerai par Agendas.
Puis je vais manger de la glace aussi, beaucoup de glace. Y a pas à dire, une bonne Agendas, ça fait le taf. Hein. Vanille pécan. Et puis enfin, je vais pouvoir re-regarder les séries tranquillement, sans t'attendre pour les épisodes. Hein, Ah non, mais attends, tu peux pas regarder cet épisode sans moi, ça c'est fini ça. C'est quoi, à un moment donné, peut-être qu'on va se croiser à une soirée. Autant on rapacer, je serai un peu gêné au début. Je penserai, ah merde, elle est là. Et avec le cœur qui se met à battre, le mal de ventre qui revient, les fourmis dans les mains. Et on va parler ensemble. On va échanger 2-3 banalités, je vais t'écouter, et à un moment donné, en te regardant, je vais penser... Tout simplement... Bon...
Moi aussi.
Parce que c'est un.
C'est vrai.
Ouais.
Parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment la première scène du film et qu'il y a un peu un mélange entre effectivement le.
C'est la
une forme d'humour et aussi une vraie profondeur du propos donc voilà. Je trouve que c'est une belle balance, ce morceau-là.
Moi aussi. Je pense que je commence par Agendas, puisque je les connais, en fait, les morceaux.
Bah oui.
C'est un exercice de pensée.
Exactement.
Je pense qu'Agendas, il est représentatif assez de tout ce que t'es dans l'album. C'est qu'il y a une espèce d'ironie, quand même. Il y a un angle. Il y a du spoken word, mais il y a une musique qui est quand même très... alors, j'ai pas les bons mots, parce que je suis pas très bon pour faire des images pour les sons, mais un peu aérienne, un peu... je sais pas comment dire... qui fait horizon des événements. Il y a un truc un peu...
On a essayé de faire quelque chose de cinématographique, voilà, et élégant.
Ce qu'on a voulu faire, c'est un album que j'adore, de Blonde Redhead, qui s'appelle Misery is Butterfly, et on entend les gens... on entend le mec prendre sa guitare, on entend le mec qui respire. J'aime ça dans les albums, quand on spatialise le son. C'est un truc que je t'avais dit, putain, écoute ça, c'est... On entend le mec qui prend ses... Enfin, tu sais, on sent que le batteur, il est dans la pièce, quoi. Et quand on est dans la pièce avec, c'est un peu ça. On est dans une pièce.
Et du coup, sur l'album, tu joues ? T'es instrumentiste ?
Pas du tout.
Ou zéro ?
Pas du tout, zéro instrumentiste.
Tu joues Clément, d'aucun instrument ?
Tout à fait.
Même pas un petit coup d'alto quelque part ?
Non, Clément, bah, il est beaucoup plus fort que moi. Il est beaucoup plus virtuose. Et surtout, ouais, il arrive à créer
un alto.
Non, mais justement, il sait jouer de l'alto. Il a un alto. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il arrive à créer des quatuors à cordes seul en studio, quoi. Des quatuors avec plusieurs instruments.
Exactement.
Non, mais il fait plusieurs instruments, plusieurs couches, et il est juste à peau, ça fait un quatuor à cordes, et c'est magnifique.
T'as pas du tout eu envie même de...
En fait, je suis un musicien passable. Je suis un musicien, je peux être très fort pour un comique qui fait de la musique. On se dit, waouh, c'est fou, c'est un comique qui fait de la musique.
Là, alors, je vais pas dire de conneries. La base d'Agendas, les quatre premiers accords, c'est pas de la guitare, c'est pas toi, ça ?
C'est du Pids, et c'est Guillaume Brière qui les a mis.
D'accord. Okay.
Et
Mais attends, dans Bref, Try Again,
ouais.
Marla.
Mais j'ai pas de
Marla,
technique.
Marla, je t'aime. C'est
j'ai aucune technique.
C'est toi qui joues.
Oui, mais j'ai aucune technique.
Mais c'est toi qui joues.
Oui, mais j'ai pas de technique. C'est très simple, c'est très basique.
Il y a plein de gens qui aiment le thème de Marla.
Oui.
Dans Bref.
Oui, bien sûr.
Et pourtant, c'est toi qui joues.
Ouais. Mais je en plus en studio. Mais alors pour Bref, c'était un peu particulier parce que. J'avais enregistré des trucs un peu au magnétophone comme ça de mon côté, puis j'ai envoyé, puis on a fait une musique dessus, on n'est pas passé en studio. Dès que je pars en studio, je perds 2000% de ma force. Le studio, c'est très, très exigeant. Tu vois, il y a un rec, il y a un clic, il y a un tempo. Moi, je ne sais pas faire du tout ça. C'est un métier, quoi. Et je pense que pour un comique, arriver avec un alto sur scène ou un alto violon et d'arriver. Et de faire des blagues, on se dit waouh, c'est plus impressionnant comme ça parce qu'on s'attend pas à ça. Mais quand on doit faire un travail en studio, il faut être excellent. Je suis pas excellent. Voilà.
Il est pas excellent. Ou il est humble.
Il est humble, mais il est pas excellent.
Il est moins excellent que les instruments que les gens ont joué sur l'album.
L'alto, les instruments à cordes en général, c'est
ça ne souffre
c'est
pas
ingrat, hein. C'est ingrat,
ça ne souffre genre. Rien ça ne se souffre c'est, pas c'est, le
tu payes
passable.
La moindre erreur.
Ah oui, ça s'entend tout de suite, c'est moche, c'est pas beau,
c'est pas No Woman No Cry sur la plage avec une guitare sèche, quoi.
Les gars que tu vois dans des orchestres classiques, la prochaine fois que tu vois un orchestre classique à la télé, pense que le gars qui est au dernier rang au fond que tu vois pas, pour avoir le niveau de rentrer dans cet orchestre, il a dû faire 7-8 heures de violon par jour pendant toute son adolescence jusqu'à ses 25 ans, et qu'aujourd'hui il doit faire encore 3-4 heures de violon avec 1h30 de gamme tous les matins. C'est une vie de sportif de haut niveau, quoi.
Et si t'arrêtes, tu perds ton son. On peut perdre un son de violon. C'est-à-dire que tu peux avoir un son, mais au top. Moi, je me rappelle quand j'avais...
C'est pas comme le vélo.
Ouais, à 19 ans, j'avais un son. J'avais un vrai son d'alto. J'étais là genre, putain, tous les jours, c'est 4 heures par jour de gamme, blam, blam, blam. Tu commences à développer une trace ici, tellement ton alto, il est là. C'est un truc que tous les violonistes connaissent, à la tâche de vin ici. Dès que tu vois un mec qui a une tâche de vin ici, c'est des mecs qui aiment le vin aussi, mais c'est surtout un violoniste, quoi.
Dans Twilight, il y en a pas mal.
Ouais, c'est vrai, pour le coup, mais c'est peu des violonistes.
Okay.
Mais tu passes ça, et à un moment donné, tu prends ton alto et tu sens que t'as un son, tu maîtrises tout, tu deviens le corps. Aujourd'hui, je prends mon alto. J'ai encore quelques techniques, mais j'ai que de la technique, quoi. J'ai plus rien. J'ai des envies, mais je suis là, genre, j'aimerais. Ça ne retranscrit pas du tout. C'est ça ne souffre pas le à peu près.
Ok. Et est-ce qu'il y aura du live ? Est-ce que tu penses le jouer en live
mais
à un moment cet album ?
Pas. Je pense pas.
Jamais, jamais.
Je dis pas
même
jamais,
pas
mais pour l'instant, c'est pas prévu du
même
tout.
Même pas en première partie d'Alice et Moon, vu que lui, il faisait ses chansons. Pendant ces spectacles d'humour.
J'avoue. Non, je vais dissocier.
Même pas en rappel.
Non, je vais dissocier.
On va avoir une bonne soirée, on n'a aucune chance, même si tout le monde dit l'horizon, de t'entendre le faire en live.
On a fait des live sessions en studio. qu'on va sortir petit à petit pour donner un autre angle de l'album. Mais je dois y réfléchir encore. Pour l'instant, c'est non.
Pour l'instant, c'est pas une envie, en tout cas.
Pour l'instant, c'est pas une envie.
Et la présidentielle ?
T'y penses ? Écoute, je pense que...
Tu penses que ça peut être le début de ta campagne, cet album ?
Non, mais j'ai une idée récemment. Je trouvais ça drôle que pendant les présidentielles, on fasse un truc. On se mette avec 12 humoristes. De 12. Tous horizons. On fait ça à la radio. On fait à la radio. Ça peut être très marrant. Et on crée le programme politique le plus créatif, marrant et pas autorisé pendant la présidentielle. Et on se réunit toutes les semaines et on discute de, pas de l'actualité, mais des envies qu'on aurait pour la France. Avec, il y aurait des choses complètement saugrenues et il y aurait des choses complètement géniales. Et je pense que ça peut être inspirant pour mais c'est mon idée
on
que j'aimerais.
Sur YouTube, on peut faire une bonne campagne.
On peut le faire, mais ce serait une.
Hein? Une bonne campagne.
Une bonne campagne, mais justement, on reçoit des gens marrants et on discute de projets. Alors là, la culture, on fait quoi? Et ça peut partir en zbeul. Et ça peut, il peut y avoir des choses très brillantes dedans. Bon, on demande aux gens de réfléchir à des choses assez intelligentes pour la France.
Eh bien, merci.
On enlèverait le combat politique. On enlèverait juste, on aurait l'envie que ça aille mieux, c'est tout.
Eh ben, moi, je dis fais ça, sors pas l'album, fais plutôt ça. Où est-ce qu'on va le trouver?
Il sera partout disponible.
Il sera sur cette chaîne.
Il est sur cette chaîne. On va mettre toutes les chansons. Bien sûr, on va mettre tous les morceaux sur la chaîne.
Est-ce qu'il y aura des clips?
Oui, il y a 3 clips qui sont prévus pour le moment. On est en train de finaliser ça. Enfin, tu sais, c'est tous les budgets parce que je suis producteur aussi de l'album. Dans le sens, j'ai vraiment. J'ai mis mon argent là-dedans, quoi. J'ai pas été produit par quelqu'un. J'ai produit l'album. J'ai payé tout le monde et du coup, j'essaie de avec cet argent de gérer pour pouvoir faire des beaux clips, des belles choses. Donc, je suis en indépendance totale sur cet album. J'ai Vagram qui distribue l'album, c'est-à-dire qui va faire en sorte qu'il soit à la Fnac, qu'il soit dans tous les réseaux de vente. Je ne sais pas faire, moi, ne sais pas appeler la Fnac.
Chez les disquaires.
Exactement, chez les disquaires. Vraiment que tout le monde puisse avoir accès à cet album. On va essayer de faire des petites opérations un peu sympas, un peu individuelles, des choses un peu spéciales. Enfin, là, à l'heure, je n'ai pas encore tout le détail parce qu'on est un peu en avance, mais il y aura, je vous préciserai ça, tous ces trucs-là.
Donc, au moment où les gens écoutent cette émission, il y a moyen qu'il y ait déjà des trucs en ligne?
Il y a moyen, et puis il y a moyen qu'il y ait une belle énigme à résoudre aussi.
Quelque part sur l'Internet?
Quelque part sur l'album, peut-être.
Une énigme sur l'album?
Sur l'objet, ouais. Parce que tu sais, nous, on aime bien faire des objets.
Parce que
on achèterait.
L'album va sortir en objet?
Oui.
Comment? Un vinyle, un CD?
Le CD, le vinyle.
Une cassette,
ouais,
une VHS?
Non, il n'y a pas la VHS.
Un mini-disque?
Non, il n'y a pas le mini-disque.
Ce sera quoi, un vinyle?
Ce sera un disque dur, la compagnie, la scie. Voilà, vraiment, ce sera très très lourd.
Du coup, Clément, dans un album, ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a pas que vous deux. Ou c'est un truc vraiment... Vous deux, et puis voilà, vous avez accouché, ou il y a d'autres gens qui sont intervenus sur l'album?
Non, alors il y a déjà des interventions vocales de d'autres personnes, comme Mathilda qui est venue chanter sur Soleil Nuit, comme Laura Felpin aussi qui est venue intervenir sur le titre Une fièvre. Et puis après, bah, il y a toute l'équipe artistique. À la batterie, j'ai fait jouer un copain qui s'appelle Damien Gouzou, qui était batteur. De mon groupe à l'époque.
On voulait faire des batteries un peu à la Gainsbourg. J'adore la caisse claire de Gainsbourg et on voulait retrouver ça, retranscrire ça.
Et derrière, au mix, c'est Olivier Leduc qui s'en est chargé, Alexis Bardinet au mastering.
Ce sont des étapes cruciales parce que ça rechange les morceaux, ça leur donne une nouvelle dimension. Et d'ailleurs,
tu dois refaire des choix en permanence. Tu la vois la différence? Ouais. Quand on te dit, tiens, voilà le mix, voilà le master, voilà le machin, tu dis, oh ouais, ça a pris une...
Alors, master, j'ai pas l'oreille pour le master, je suis pas assez expérimenté, mais le mix, tu vois totalement la différence. Et le master, c'est vraiment un truc qui te donne une couleur complète sur l'album, une cohérence globale. Donc, c'est un truc, quand t'écoutes l'album au global, tu vois le master, mais dans un morceau, tu peux pas vraiment générer le master. C'est comme un peu l'étalonnage on va choisir les couleurs du truc. Mais le mix, c'est là où, tu sais, moi, j'adore le mixage, j'ai envie de trouver des... Tu peux redonner une autre couleur à un morceau et tout.
Et puis, Olivier, c'est vraiment quelqu'un qui a... Il
a fait les albums de Ben Mazuet, Olivier.
Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la scénographie, dans sa manière de mixer. Beaucoup dans des différences de plans. Beaucoup dans la profondeur. Alors qu'aujourd'hui, souvent, les mix modernes, c'est des choses tout dans la face, très fort, machin. Lui, il est dans une vision du mix qui est très 3D. Alors, ça fait un album qui est très didactique à écouter, qui est très... on met le casque sur les oreilles, on se retrouve dans une pièce et il se passe plein de trucs autour de notre tête, un peu dans ce qu'on peut vivre sur du son binaural ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est une grosse importance du...
C'est toi, du coup, qui est l'arrangeur.
Ouais. Ben, compo et arrangement.
Voilà. Et ensuite, tout le reste, donc les gens dont tu parlais tout à l'heure...
J'ai demandé à Ben Mazuet de m'aider sur le couplet de « Je te déteste ». Donc, c'est Ben Mazuet qui a composé le refrain de « Je te déteste
ouais. ». Et après, autour de ça, il y a l'objet. Donc là, Supakitch...
Supakitch, Laura Gilly, Clémentine au graphisme, qui a mis en place le... Et puis toute l'équipe de FKLG, Valentine, qui est un soutien incroyable, avec qui on a produit cet album. Mais c'est fou. C'est fou ce qu'on a pu faire. C'est un premier album, je ne sais pas ce que c'est que de produire un album, donc là, ça, on l'a fait. Voilà, on y a mis du cœur, on a fait cet objet, et maintenant il aura sa vie, et on le pose là, et puis voilà, livre aux gens de venir l'écouter. Non, mais je suis très heureux, j'ai été beaucoup de doutes à la sortie de cet album, beaucoup de doutes, mais voilà, on le fait, et puis maintenant, c'est comme Vincent Delerme qui nous disait, il n'y a pas de risque à prendre de risque.
C'est pour ça que tu as sucé ton père. Ah, merde!
Ah, toi aussi!
Non, j'ai pas le droit de jouer.
Tu as sucé mon père.
Oui. Non mais écoute, super, moi je suis trop content, je trouve que cette émission elle était formidable, surtout le présentateur, je pense qu'il avait un petit truc en plus, ça doit être les cheveux. Et si vous voulez soutenir cette émission, il vous suffit de commenter. Navo est vraiment un meilleur commentateur, un meilleur présentateur que...
T'as vu c'est relou, t'as vu les lancements, t'as vu, tu te donnes de ma gueule à chaque fois, c'est
non,
vrai, les lancements de fin, t'es un peu fatigué, t'es un peu... Et ça
non, je t'imitais.
C'est ça, bien,
je faisais comme toi, je t'ai bien imité. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on ressent quand on te regarde complètement
pédalé. Du coup, t'es un meilleur présenteur, c'est ça?
Ouais. Ouais, j'imitais.
Vas-y, présenteur alors.
Tu veux que je fasse le bon présentateur?
Vas-y.
Et ben voilà, c'était un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, puisque c'est le titre de l'émission. Si vous voulez nous soutenir, il y a une bonne boutique sur laquelle on vend plein de trucs. Si vous voulez vous souvenir, vous pouvez acheter des souvenirs sur une bonne boutique. Est-ce que sur une bonne boutique, il y aura déjà l'album au moment où les gens regardent? On sait pas encore.
Oui, bien sûr.
On espère. Cherchez-le.
Bien sûr. Il sera en précommande, en tout cas.
Il sera en précommande, voilà, parce qu'on n'est pas cons. Voilà, donc vous pouvez précommander l'album. Je serai déjà en train de courir pour les acheter. Merci beaucoup, les amis.
Merci à vous, Clément.
Parce que je sais que ce n'est pas un exercice facile. Toi, tu as un peu plus l'habitude de parler dans ce micro. Moi, j'ai trouvé que tout ce que tu as dit, c'était trop bien et trop intéressant.
C'est très gentil, merci.
Toi, moyen, mais bon, c'est pas grave.
Comme d'hab.
De toute façon, les gens,
t'as une bonhomie. Tu as toujours ce rapport un peu paternel avec moi, genre, ça t'a plu? Moyen. Oh putain, voilà. Faut que je me batte et je me dépasse en permanence pour au moins exister.
On arrête cette émission, tu vas ranger ta chambre et t'arrêtes de me casser les couilles.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.